J'aimerais peut-être faire un petit écart et parler d'une béatitude pour l'Église aujourd'hui qu'on n'a jamais peut-être abordée ici. C'est la 8e béatitude, Matthieu chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, nous sommes depuis des années une Église, le corps de Christ en France. Il y a une vision du royaume. Jamais depuis tant d'années, l'Église n'a jamais pris autant conscience de sa responsabilité dans toutes les sphères de la société, sphère éducative, sphère même politique, sphère éthique, sphère économique, etc. Vraiment, ce message du royaume est un message qui depuis 10-15 ans, même plus, est commencé à rentrer dans les cœurs et dans les vies. Le problème, c'est que Dieu nous dit... Tu veux le royaume, alors heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Tu veux le royaume, ça va avec la persécution aussi, qu'on ne cherche pas, mais qui parfois est là. Et j'aimerais qu'on puisse méditer un peu sur cette notion, sur cette béatitude. Alors, vous savez qu'il y a toute une série de béatitudes, et la promesse du royaume des cieux, elle commence par ça, et elle finit par ce verset qu'on vient de lire. La souffrance, la persécution... Elle est comparée dans l'Église, dans la parole de Dieu, à un portail, à une porte. C'est comparé à une porte et le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont persécutés à cause de Christ. Le livre des Actes nous présente cette porte toujours de la souffrance comme une porte qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu, qui s'ouvre sur le royaume de Dieu. Donc, l'entrée du royaume implique de toute façon une part de souffrance à laquelle on doit se soumettre. Quand on lit par exemple Actes 14, 22, 19, déjà à partir du 19, il s'agit « Puis survint d'Antioche et à Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul, traînèrent dans la ville, hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, regardez, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le livre des Actes, c'est un livre de confrontation de culture, culture gréco-romaine contre la culture biblique hébraïque. Et ça a été chaud, la confrontation. Nous sommes dans des temps de confrontation exactement pareils. Et cette parole dans les Actes des Apôtres, c'est la même chose. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Alors, beaucoup de tribulations, alors, ça parle d'épreuves, ça parle de souffrance, mais ce n'est pas opposé à la joie. Et c'est ça le principe biblique, c'est que la Bible ne met pas en opposé la joie et la souffrance. Heureux ceux qui sont persécutés, ce n'est pas une opposition. C'est pas une opposition, on a du mal à comprendre ça. Mais c'est possible de vivre les deux en même temps. Alors, l'admission dans le royaume s'accompagne de combats. Et cette présence de la souffrance, de la persécution, ne devrait constituer une surprise pour personne. Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte, laquelle ? La porte étroite. Hein ? C'est une porte étroite. Alors, et on s'efforce d'entrer où ? Dans le royaume de Dieu. Hein ? C'est cette porte du royaume, c'est la porte étroite. Alors, le Seigneur nous dit que celui qui refuse de porter sa croix, il ne peut pas suivre Jésus. Il ne peut pas suivre Jésus, ce n'est pas possible. Et celui qui rejette l'idée de renoncer à sa propre vie, le terme grec, c'est sa propre façon de penser. Ce n'est pas sa vie physique, forcément, c'est sa façon de penser. Voyez. Celui qui ne renonce pas à ça et qui ne reçoit pas la sienne de façon de penser, il n'est pas digne de le suivre. Alors, voilà, j'aimerais donner quelques raisons qui expliquent pourquoi la souffrance concourt à notre bien de façon très très forte. On parle rarement de ces messages, désolé, mais je crois que c'est un bon message, vous allez voir. La marque du chrétien, je crois que celui qui passe par ces persécutions ça démontre qu'il n'appartient pas à ce monde. Il n'appartient pas à ce monde. Et je pense aux enfants aussi, aux élèves. Et parfois, celui qui sait se démarquer, même dans une classe d'école chrétienne, celui qui sait prendre position pour Christ, Dieu l'honorera. Et celui qui prendra position adulte aussi pour Christ, c'est pareil. Dieu va l'honorer. La marque du chrétien, c'est celui qui tient alors qu'il y a un combat par rapport à ceux qui ne supportent pas son attitude. Voyez. Alors Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ma question est la suivante. Quel est le degré de haine que vous avez ressenti de la part du monde ces derniers temps? Peut-être pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. On aime être aimé. Qui c'est qui n'aime pas être aimé? On aime être aimé. On aime être apprécié. On aime être encouragé. Mais la Bible dit, eh bien voilà, le monde vous hait. Donc cette haine, on l'a bien sentie cette semaine. C'était incroyable. Et vous savez, ça vous fait drôle quand vous avez l'impression d'être gentil, enfin j'espère, hein, d'être gentil, quand vous avez l'impression d'être patient, d'être vraiment... Et puis tout d'un coup, tout ce truc dans la figure, vous dites, mais hey, mais c'est quoi ce truc, hein? Et puis voilà, la Bible dit, ne vous étonnez pas, le monde vous hait. Et c'est fort, hein, comme mot. En d'autres mots, on doit s'attendre eh bien, à cela... pour porter l'empreinte authentique d'un chrétien. En quoi consiste ce signe distinctif du chrétien? Il se définit par la justice, on en parle beaucoup ici, qui se dégage de notre vie. On n'est pas meilleur que les autres, mais Dieu nous a dit, parce que tu as cru en moi, eh bien moi je t'ai revêtu d'un vêtement de justice. On n'est pas plus obéissant que les autres. Il y en a qui pensent que les chrétiens, c'est ceux qui obéissent parfaitement. Mais ce n'est pas ça qui nous rend mieux aux yeux de Dieu. Ce qui nous rend mieux de Dieu, ce n'est même pas notre obéissance. Ce n'est pas ça. C'est l'obéissance de Jésus pour nous. Et il nous donne le fruit de son obéissance. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais c'est la foi en Jésus qui nous revêt d'un manteau de justice. Et donc Dieu nous voit au travers de cela. Chut, les enfants, s'il vous plaît. Donc Dieu nous voit au travers de ce manteau de justice. Et c'est ça qui est extraordinaire, vous voyez. Donc, la marque du chrétien, eh bien, c'est ce revêtement. Et bien sûr, une telle perception de la vie, ça transmet le message. Qu'est-ce que ça transmet comme message, notre façon de vivre? Eh bien, ça transmet le message qu'on désapprouve un système de valeurs qui est partout dans le monde. Et ce désaveu, eh bien, ça irrite. Ça irrite. Les gens seraient tellement contents qu'on accepte tout. Parce que du coup, on ne se sent pas coupable, vous comprenez? Mais nous, on a le droit de ne pas accepter tous les comportements. Et du coup, qu'est-ce que ça amène? Ça amène de la culpabilité. Et la culpabilité, ben, du coup, ça peut amener de la haine si les gens sont trop orgueilleux pour reconnaître simplement ben, qu'ils ont à changer, comme nous tous, hein. Donc, première, la marque du chrétien. Et deuxièmement, ça sert à purifier notre foi. Et ça, c'est une raison très importante. Les tribulations servent à montrer la qualité de notre foi. 1 Pierre 1,6 « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Voyez ? Donc ça, c'est la foi. Et moi, je bénis le Seigneur de fréquenter des gens comme vous. Et moi, voyez, par exemple, quand je vois Didier Declercq avec son dos qui souffre et qui est toujours là et qui tient dans la foi, quand je vois les Peulson, famille éprouvée depuis des années et qu'il est encore, et ils sont là et ils tiennent, quand je vois notre Huguette toujours dans la joie et maintenant en vacances, on prie, on l'a béni d'ailleurs, et voyez, et qui souffre comme même dans son corps, qui croit à la guérison, qui a vu des guérisons, mais qui elle-même souffre dans son corps, et qui reste fidèle, et dans la foi, et dans la joie. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je suis fier d'appartenir à l'Église du Christ dans ce pays, parce que c'est une Église qui est belle. C'est une Église qui est belle, et Dieu la voit comme ça. Quel est le discernement que tu as? Est-ce que tu vois l'Église comme la princesse que Dieu voit, ou est-ce que tu vois tous les défauts, toutes les tares et les tiens aussi? À ce moment-là, tu ne vas pas aller loin. Mais Dieu nous regarde, revêtu de ce manteau de justice, et voit cette princesse qui est belle. Mais les tribulations sont là, et l'épreuve du feu, c'est pour un or qui est meilleur. Il est facile de faire une déclaration d'allégeance à Dieu quand tout le monde se montre aimable envers vous. Et ça va être plus difficile quand les gens ne sont pas contents. Hein. Alors, il y a vraiment un feu purificateur, et je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois qu'aussi, il y a un autre, la troisième marque, aussi le troisième point, c'est que c'est vraiment intéressant de voir combien